Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de ce 8 décembre, l'Australie avance vers le voyage à l'intérieur sans quarantaine avec le Queensland, rouvrant sa frontière aux voyageurs d'Adélaïde ce samedi 12 décembre. Les employés permanents à temps partiel pourraient bientôt être en mesure de négocier des heures supplémentaires à leur taux de rémunération habituel. La Grande-Bretagne est le premier pays à administrer le vaccin Pfizer et BioNTech cette semaine. Les premières vaccinations commençant vers 18h ce mardi. La priorité est donnée aux personnes de plus de 80 ans, aux agents de santé sur le front line, au personnel et aux résidents des maisons de soins. On écoute le ministre de la Santé, Matt Hancock.
I'm confident that the NHS is going to be able to roll out this vaccine according to need, to make sure that those who are most vulnerable to COVID-19 get called forward first, and to make sure that everybody can have access to it right across the whole of the UK.
En Australie, on s'avance vers le voyage à l'intérieur sans quarantaine avec le Queensland rouvrant sa frontière aux voyageurs d'Adélaïde samedi prochain, 12 décembre. La capitale de l'Australie du Sud a été déclarée hotspot COVID-19 il y a 3 semaines après qu'un cluster ait été identifié dans la banlieue nord de la ville. La ministre de la Santé, Yvette Duff, du Queensland, déclare que l'État attend avec impatience le changement, mais elle avertit que les gens doivent rester vigilants.
Of course, our message in opening up the borders to those people coming from Adelaide, and we welcome them arriving for Queensland and to holiday and to visit family and friends. But the message is clear. We must continue to be vigilant. We must continue to practice good hygiene.
L'Australie occidentale rouvrira ses frontières à la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria à partir de ce mardi 8 décembre. Le voyage entre les deux États était incertain après qu'un nettoyeur d'hôtel de quarantaine de Sydney ait été testé positif au COVID-19 la semaine dernière. Les voyageurs d'Australie méridionale seront autorisés à entrer en Australie occidentale sans avoir besoin de se mettre en quarantaine à partir de ce vendredi 11 décembre, en espérant qu'il n'y ait plus d'épidémie de coronavirus. Le député national Matt Canavan pense que les relations sino-australiennes peuvent être améliorées à long terme, mais que dans l'intervalle, l'Australie devrait cultiver ses relations bilatérales avec d'autres pays de la région. La Chine a rejeté la demande d'excuse du Premier ministre Scott Morrison pour une image tweetée montrant un soldat australien tenant un couteau à la gorge d'un enfant en Afghanistan. Matt Canavan déclare que l'Australie doit protéger son indépendance et sa souveraineté, même si cela signifie que les relations avec la Chine souffriront temporairement.
I'm also not going to gild the lily and say I think things are going to be better in the next few months. It doesn't look great right now. And really, the only response we can do in the context of that is to find other friends, to build other relationships. We were doing that anyway with the trade agreements we've signed elsewhere. We're targeting with India. But there should be a renewed effort for that now, obviously. And it's going to come at some cost to us if the Chinese relationship does reduce. But we are going to be still a strong and very wealthy country regardless. I'm very confident of that.
Les défenseurs de l'aide sociale appellent à une augmentation permanente du paiement de Job Seeker avant une réduction prévue du supplément de coronavirus prévu pour le 1er janvier prochain. Une enquête menée par Anglicare Australia a révélé que les augmentations temporaires pendant la pandémie de COVID-19 aident les gens à manger correctement. La directrice exécutive d'Anglicare Australia, Casey Chambers, a déclaré que la réduction du paiement supplémentaire signifierait que de nombreux bénéficiaires essaieront de vivre avec 7 dollars par jour après avoir payé leur loyer.
What we found was that on the old rate of JobSeeker, people were really making difficult choices. 41% of people were living with only $50 left after they'd paid the rent. We also found that 72% of people were actually skipping meals weekly. And for young people, they were the number of people who were skipping meals the most. Most people were skipping three or four meals a week.
Les employés permanents à temps partiel pourraient bientôt être en mesure de négocier des heures supplémentaires à leur taux de rémunération habituel. Le gouvernement fédéral pense que de nombreux travailleurs dans les commerces et dans l'hôtellerie aimeraient travailler plus d'heures, mais les entreprises sont souvent réticentes parce qu'elles devraient payer le personnel à des taux plus élevés. Dans le cadre d'une proposition de loi au Parlement, les employeurs et les employés pourraient s'entendre pour que davantage de travail soit effectué sans pénalité pour les heures supplémentaires. Le ministre des Relations industrielles, Christian Porter, a déclaré que les changements porteront sur le sous-emploi, la flexibilité du lieu de travail et le recours à du personnel occasionnel. Le Parti travailliste demande au gouvernement fédéral d'ouvrir une enquête parlementaire pour examiner la menace de l'extrémisme de droite en Australie. Le parti demandera un vote à la Chambre basse ce mardi pour que la question soit renvoyée à la commission parlementaire mixte sur le renseignement et la sécurité. La porte-parole du Parti travailliste aux affaires intérieures, Christina Keneally, a déclaré que le moment était venu de réévaluer la réponse de l'Australie face à la menace posée par les extrémistes d'extrême droite.
They could seek to make those prescriptions. They haven't yet. So I think there is a clear question about why, and there's a clear question about whether or not our prescription laws are not fit for purpose when it comes to right-wing extremism.
L'incendie qui menace un canton de Fraser Island au Queensland, les résidents de The Oaks, à environ un kilomètre au sud de Happy Valley, sur Fraser Island, ont été invités hier lundi soir à partir via Eastern Beach dès que possible. Les services d'urgence du Queensland disent espérer avoir bientôt 19 avions et deux gros avions citernes en service aujourd'hui. Les feux, je rappelle, ont commencé à brûler dans trois régions de Fraser Island depuis octobre dernier. En Nouvelle-Calédonie maintenant, avec des heurts entre manifestants et forces de l'ordre, hier lundi, pour cause, la mise en vente de l'usine de nickel du géant brésilien Vale au sud du pays. Explication de Julien Chavanne pour Radio France Internationale.
Ils décrivent un pays au bord d'une très grave crise politique, économique et sociale à l'approche d'un nouveau référendum d'indépendance. Des députés centristes et des leaders indépendantistes ont écrit à Emmanuel Macron un appel de détresse. Le nickel est la principale ressource de l'île. Son exploitation est un sujet sensible au cœur du processus de décolonisation. Philippe Gomez est député Calédonie Ensemble.
Laisser le dossier de la reprise de l'usine du Sud peu à peu s'enfoncer dans une ornière, c'est pas simplement une ornière économique et industrielle, c'est pas simplement une ornière en termes de troubles à l'ordre public, c'est également une ornière politique, c'est-à-dire qu'on va vers un troisième référendum dans un contexte qui sera un contexte totalement délétère.
Ces derniers mois, indépendantistes et loyalistes soutenaient chacun un repreneur. Korean Zinc, privilégié par les indépendantistes, s'est retiré. Il ne reste plus que le Suisse Trafigura. Le gouvernement français espère y voir une porte de sortie. Le terrain s'embrase parce que les politiques locaux jouent sur les divisions. Maintenant qu'il n'y a plus d'offres alternatives, ça va peut-être s'éteindre, confie l'entourage du ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, tout en reconnaissant ne pas pouvoir faire plus. C'est la vente d'une entreprise privée à une entreprise privée. On n'a pas la main, lâche un conseiller.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi est en France pour une visite d'État depuis hier. Précision de Nicolas Falaise pour RFI.
Emmanuel Macron reconnaît des désaccords avec l'Égypte sur la question des droits humains, mais pour le chef de l'État, pas question d'en faire un obstacle à la coopération avec l'Égypte. Celle-ci doit avoir lieu sans condition.
Je ne conditionnerai pas notre coopération en matière de défense comme en matière économique à ces désaccords. D'abord parce que je crois à la souveraineté des peuples et au respect de nos intérêts légitimes et réciproques. Donc ce serait inefficace sur le sujet des droits de l'homme et contre-productif dans la lutte contre le terrorisme. C'est pour ça que je ne le ferai pas.
Emmanuel Macron précise que des cas individuels de militants emprisonnés en Égypte sont évoqués lors de ses conversations avec son homologue. Mais lorsqu'on parle droits de l'homme à Abdel Fattah al-Sissi, il répond « lutte contre le terrorisme ».
On ne peut pas présenter l'État égyptien comme un régime despotique avec tout ce qu'il a fait pour son peuple et pour la stabilité de la région. Ma responsabilité, c'est de protéger l'État contre une mouvance extrémiste qui existe depuis plus de 90 ans.
Une allusion claire aux frères musulmans, la bête noire du pouvoir égyptien. Lors de cet entretien, Emmanuel Macron a également remercié Abdel Fattah al-Sissi pour son soutien au moment où la France était visée par des menaces et des appels au boycott suite à ses positions sur les caricatures du prophète Mahomet.
Et tout à l'heure, après le sport, le journal de la semaine en France avec Émile Matasso. Le Premier ministre britannique Boris Johnson se rend à Bruxelles pour les négociations post-Brexit, toujours dans l'impasse, et surtout pour discuter le dossier de la pêche. Précision de Béatrice Leveillé pour RFI.
L'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques reste un sujet sensible pour plusieurs États membres, comme la France, qui menace d'utiliser son droit de veto pour défendre l'intérêt de ses pêcheurs. Il n'y a pas eu de percée sur la pêche ce week-end, pas plus que sur les conditions de concurrence équitable, alors que le Parlement britannique examine aujourd'hui le très controversé projet de loi remettant en cause les engagements du Royaume-Uni dans le traité signé il y a à peine un an. Voilà de quoi rendre les Européens méfiants, y compris les Allemands qui président actuellement l'Union européenne et rappellent qu'ils n'accepteront pas un accord à n'importe quel prix. La date fatidique à laquelle les accords basiques de l'Organisation mondiale du commerce s'appliqueront dans les échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, si aucun accord n'est trouvé, reste celle de la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020.
La campagne de Donald Trump pour discréditer le résultat de la présidentielle américaine a subi un autre revers, l'État de Géorgie confirmant une fois de plus que Joe Biden a remporté une majorité de voix dans l'État. Les responsables géorgiens ont annoncé qu'après un troisième décompte des voix, les résultats restent inchangés. Les juges ont également rejeté des cas juridiques en Arizona, en Pennsylvanie, au Nevada et au Wisconsin. Le secrétaire d'État géorgien Brad Raffensperger affirme que les allégations de fraude électorale de la part du président Trump ne font que lui faire du tort.
Disinformation regarding election administration should be condemned and rejected. Integrity matters, truth matters. All this talk of a stolen election, continuing to make debunked claims of a stolen election, is hurting our state.
Et comme on s'y attendait, le parti du président Nicolas Maduro remporte largement les élections législatives au Venezuela. Reportage de l'envoyé spécial de RFI, Marie Normand.
Pour entrer dans le quartier José Félix Ribas de Petare, l'un des plus grands bidonvilles d'Amérique latine, il faut montrer patte blanche et se faire accompagner. Jacqueline Caicedo, responsable d'un comité de quartier, nous accueille chez elle. Elle explique qu'avec d'autres représentants locaux du parti au pouvoir, elle a toqué à des dizaines de portes du matin au soir pour encourager les habitants à aller voter.
Mes doigts me font toujours mal, mes pieds aussi. Je suis épuisée, mais ça valait la peine. On a atteint notre objectif. C'est un grand triomphe.
Et lorsqu'on lui demande si elle n'est pas déçue de la très forte abstention, chez nous, il n'y en a pas eu, c'est plutôt le problème de l'opposition, répond-elle. Jacqueline Caicedo espère que les nouveaux députés voteront des lois qui aideront les habitants à résoudre les pénuries d'eau, de gaz, d'essence, qu'elle attribue directement aux sanctions américaines. Elle a d'ailleurs un message pour la communauté internationale.
Laissez notre pays tranquille. On vous en supplie, occupez-vous de votre pays. On fait notre travail, faites le vôtre et respectez-nous.
En Afrique, en RDC, République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi met fin à la coalition avec le FCC, le parti de l'ancien chef d'État Joseph Kabila. Explication de Patient Ligodi pour RFI.
La rencontre a duré une demi-heure, ils étaient seulement à deux dans la pièce. Au sortir du bureau du chef de l'État à la Cité de l'Union africaine, le Premier ministre n'a rien dit. Le cabinet de Félix Tshisekedi non plus n'a pas communiqué. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a directement rejoint son bureau où il a dirigé une réunion sur la lutte contre le coronavirus. C'est la première fois que Félix Tshisekedi et Sylvestre Ilunga Ilunkamba se rencontrent depuis mi-octobre. D'après les sources à la présidence de la République, au cours de cet entretien, Félix Tshisekedi est revenu sur les derniers développements de la crise institutionnelle qui couvait depuis longtemps. Il aurait également signifié au Premier ministre l'impossibilité de continuer la collaboration. Un peu plus tôt dans la journée, le FCC avait une fois de plus revendiqué la majorité à l'Assemblée nationale et avait rejeté l'annonce de la désignation d'un informateur par Félix Tshisekedi. Le FCC a même demandé aux ministres émanant d'autres partis que ceux de la famille politique de Joseph Kabila de se retirer du gouvernement central et des gouvernements provinciaux, ce qui entraînerait d'office une situation de cohabitation. Ce lundi, la police était obligée d'intervenir pour disperser les militants du FCC et du CASH qui s'affrontaient aux alentours du siège du Parlement. D'autres actes de violence ont eu lieu dans la salle même de plénière.
On passe à la météo pour ce mardi. En Australie, à Perth, il fera 39 degrés. Adélaïde, 22. Melbourne, 18. Hobart, 18 également. Canberra, 19. Sydney, 22. Brisbane, 34. Cairns, 33. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 32 degrés. Un rappel des grands titres de ce 8 décembre, un responsable de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'agence ne va pas rendre obligatoire pour que les gens se fassent vacciner contre le Covid-19. L'Australie avance tout doucement vers le voyage à l'intérieur sans quarantaine avec le Queensland qui rouvre sa frontière aux voyageurs d'Adélaïde samedi prochain. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.